Les enfants sont au centre de notre attention, parfois même de nos préoccupations, et on veut les protéger. C'est légitime, c'est normal pour un parent, mais les surprotéger pourrait leur nuire. On en parle davantage avec Dr Nadia Gagné, elle est psychologue, conférencière, formatrice et auteure. Nadia Gagné, bonjour.
Bonjour.
Protéger, surprotéger, la nuance peut être difficile un petit peu à délimiter pour les parents et surtout de saisir qu'un enfant n'a pas besoin d'être surprotégé, mais pour saisir ça, il faut comprendre c'est quoi la différence entre les deux.
Mais en fait, ça ressemble un petit peu à la différence entre l'anxiété normale qui peut nous servir et l'anxiété pathologique quand on parle de troubles anxieux. Si je fais référence à la psychologie clinique. En fait, dans un cas, on pense à des conséquences ou à des dangers qui sont réels. Et dans l'autre cas, quand c'est exagéré, comme dans un cas de trouble anxieux ou dans le cas d'un parent qui surprotégeait son enfant, on parle d'éviter des dangers qui ne sont pas vraiment réels, qui sont surévalués dans la perception du parent. Ça peut être aussi une sous-estimation des capacités de l'enfant ou du stade de développement où il serait rendu. Donc, c'est un peu difficile pour un parent parce que c'est sûr que dans la mission d'un parent, dans le rôle d'un parent, il y a la protection de l'enfant. Mais des fois, la ligne est mince entre protéger adéquatement et surprotéger son enfant. Puis, bon, on peut penser à des parents dont l'enfant est plus vulnérable, qui pourrait tomber dans le piège de la surprotection. Mais il y a des parents dont l'enfant n'a pas vraiment de difficulté aussi, qui peut tomber dans le même piège.
Oui. Est-ce que les parents surprotecteurs ont tous un profil type? Par exemple, sont-ils des parents plus anxieux?
L'anxiété, oui. Une tendance à l'anxiété peut vraiment amener un parent à être surprotecteur de son enfant. Mais en même temps, pour que ce soit de l'anxiété, il faut que ce soit de l'anxiété qui se retrouve dans toutes les sphères de la vie du parent. Mm-hmm. Donc, pas juste vis-à-vis de son enfant. Il y a des parents qui n'ont pas nécessairement un trouble anxieux qui vont peut-être se montrer surprotectants juste dans le domaine de leur rôle parental parce que des fois, c'est des parents dont l'enfant a une histoire particulière, par exemple un problème de santé en début de vie qui est né prématurément. Donc, pour lequel il a fallu donner des soins particuliers en début de vie, mais c'est comme si le parent tombe dans le pattern d'offrir ce surplus-là de protection, même quand l'enfant est hors de danger puis il n'en a plus besoin.
Oui.
Il y a des parents aussi qui ont adopté un enfant, donc qui présument que l'enfant a eu un début de vie difficile, peut-être pas au niveau de la santé physique, mais plus au plan social et affectif, qui peut tomber aussi dans le piège de la surprotection. Puis il y a des parents qui sont comme ça simplement par la peur d'être jugés par les autres parents, s'ils ne protègent pas assez leur enfant.
Oui.
Des fois, c'est une question de peur du regard des autres. Des fois, c'est aussi le parent qui, en aidant son enfant, a le sentiment d'être utile. Comme il y avait une espèce d'auto-valorisation dans le fait d'assister son enfant. Là, c'est une cause qui semble égoïste, là, mais ça se fait à des niveaux plus ou moins conscients. Là.
Marie-Catherine Duberger, avez-vous l'impression que parfois vous avez ce comportement-là envers Anakin, c'est-à-dire de le surprotéger?
Écoute, pas vraiment, parce que comme que je disais auparavant, là, j'ai lu énormément. Et dans le cas de cette maladie-là, j'ai lu beaucoup qu'est-ce que les ados, mettons, qui étaient atteints de cette maladie-là avaient à dire. Et ce qui leur faisait le plus de peine et le plus de mal, c'était de voir leurs parents souffrir, c'est-à-dire d'être tristes à cause de la maladie et d'être traités différemment. Alors, j'ai vraiment enregistré ça dans ma tête, dans le bon dossier. Et on fait attention vraiment pour pas dramatiser, dire « Ah oui, c'est vrai, toi, tu peux pas. » Tu sais, on fait jamais d'apitoiement. On y dit tout le temps « Ben, ah, c'est pas ta maladie, c'est la maladie. Puis la maladie ne te définit pas. Donc, tu peux te relever, on est capable. » Je pense pas que nous, on fait de la surprotection. On fait la protection nécessaire, pense, mais...
Sans tomber dans l'autre excès.
Non, parce que c'est pas agréable pour eux. On l'a bien lu, fait qu'on essaie que ça soit le plus normal possible.
C'est intéressant ce qu'elle dit, Marie-Catherine, Nadia, parce que il y a des impacts négatifs chez les enfants lorsque le parent est surprotecteur.
Oui, tout à fait, parce que quand on surprotège un enfant sans trop s'en rendre compte, on le brime dans sa capacité de développer un sentiment d'autonomie puis un sentiment d'efficacité personnelle. Donc, l'enfant, on lui donne faussement l'impression qu'il a toujours besoin de son parent pour le protéger, qu'il n'est pas capable d'affronter le monde avec plus d'autonomie. Puis, en même temps, ça l'amène, un peu comme son parent, à surestimer soit son incapacité ou soit les obstacles ou les dangers qu'il peut avoir autour de lui.
Oui.
Donc, l'idée, dans le fond, c'est d'essayer de remettre en question de temps en temps, de faire des bilans sur les capacités de notre enfant ou ses difficultés, ses limites, parce que ça peut changer aussi avec soit l'évolution d'une maladie ou soit avec
le développement de l'enfant
grandit, oui. Puis qui développe une plus grande maturité, donc une plus grande connaissance de ce qu'il peut faire. Donc, c'est toujours à être réévalué, puis il faut essayer de, quand on réévalue ça, quand on fait des espèces de bilans, il faut essayer de regarder les choses le plus réalistement possible. Puis dans le but, on fait des petits essais, on peut commencer à faire un plan de petits pas à notre enfant avec des petits défis, de sorte que, bon, on peut comme ça essayer d'évaluer à par essai errant ce qu'il est capable ou moins capable de faire, mais pas avec des grandes étapes ou des grands défis. Donc, il va par petits pas, donc comme ça, c'est plus sécurisant pour tout le monde.
Oui. Aussi, Marie-Catherine le mentionnait, bon, elle dit « j'ai beaucoup lu », mais le parent qui n'est pas au courant du développement d'un enfant peut se dire « ah, mon enfant n'est pas rendu là », quand peut-être qu'il a cette maturité ou cette capacité d'accéder à une autre étape.
Oui, tout à fait. C'est bien d'essayer d'être informé. Il y en a qui vont le faire par les livres. Il y en a qui vont le faire en comparant l'enfant à ses pairs du même âge. Dans le cas d'un enfant qui a une condition particulière, ben là, c'est sûr qu'on peut aussi s'informer auprès des professionnels qui nous entourent puis qui nous soutiennent à travers le cheminement de l'enfant. Eux, ils ont une variété de cas en tête pour avoir, plus que les parents, pour avoir une perception réaliste des compétences et des limites de l'enfant.
Donc, on va chercher de l'aide, on va chercher des guides. On peut aussi aller sur votre site, Dr Nadia, drnadiapsychologue.com. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Nadia Gagné, de vous parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.